prêt. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Les anges au ciel te chantent sans retenue. Et ils ne connaissent pas le verbe sauver. Par contre, nous, nous avons été sauvés par ta grâce. C'est pour cela que te chanter doit être pour nous un exercice facile à faire, parce que nous réalisons que à la croix de Golgotha, toi tu as tout payé et que je n'ai plus rien à faire. Il suffit tout simplement de croire à ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi, Père, je te suis encore reconnaissant ce soir pour cette grâce que tu viens de nous accorder d'être de ce côté du temps. Aucun mérite. Tout n'est que grâce. Comme tout n'est que grâce, Seigneur, pardonne-nous d'abord nos manquements. Parce que nous avons vu des choses, nous avons dit des choses, nous avons réagi d'une certaine façon. Père, pardonne. Merci pour nous qui avons reçu cette grâce d'arriver ici ce soir. Pense aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps d'arriver en ce lieu. Nous n'avons rien mérité, tout n'est que grâce. C'est par ta grâce que nous sommes arrivés ici. Et nous te disons merci pour cela. Merci d'avoir commencé avec les cantiques qui sont montés vers toi pour ta gloire. Maintenant, nous allons continuer le service, lire ta parole, et nous te demandons que tu viennes aussi la prêcher toi-même. Nous ne sommes que des instruments faillibles, et nous devons tout simplement nous confier à toi, parce que c'est ta parole. Il n'y a que toi qui as cette capacité de l'interpréter comme il le faut. Seigneur, que tu accordes à ceux qui vont écouter le cœur bien disposé et qu'ils puissent écouter comme écoutent aussi les disciples. Quant à moi, Seigneur, je suis le moindre de tous. Ce que je te demande, que tu puisses tout simplement m'utiliser, que je m'efface devant ta gloire, que tu viennes faire ton travail toi-même, et je compte sur toi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ce que nous avons demandé et ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit puisse intercéder pour nous. Je te recommande cette modeste prière dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, nous remercions le Seigneur parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont renouvelées pour toi et moi ce matin, n'est-ce pas?
Amen.
Il a quand même constaté. Aussi, nous le remercions pour son amour qu'il a versé dans nos cœurs. Voilà, ce soir, nous sommes encore assemblés pour écouter sa parole. Pas n'importe quelle parole, alléluia, mais celle qui nous prépare à vivre avec lui éternellement. N'est-ce pas un grand privilège que nous avons? Écouter la parole de Dieu qui nous prépare à vivre avec lui éternellement. Un jour, le rêve deviendra une réalité. Alléluia.
Amen.
Alors, nous sommes très reconnaissants pour le Seigneur. La fois passée, nous avons vu le sujet qu'on avait intitulé « Se nourrir de Christ », sujet qui faisait suite au problème de la compréhension dont le Seigneur parlait quand il a instruit. Il y avait les disciples, il y avait le pharisien, il avait instruit ces gens sur le célibat et le divorce, n'est-ce pas? Alors, le problème de la compréhension doit vraiment nous interpeller, parce que si on ne fait pas attention à la compréhension, comme je l'avais dit, chaque personne qui est ici est une doctrine, selon sa compréhension. Alors, si nous ne faisons pas attention à bien comprendre ce que nous lisons, ce que nous écoutons, nous risquons de tomber dans des travers. Alors, c'est très dangereux. C'est pourquoi il est vraiment important que nous puissions bien comprendre les choses qui nous sont enseignées, de bien comprendre les choses que nous lisons, de bien comprendre les choses que nous écoutons. Et nous savons que de par nous-mêmes, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Ce n'est pas possible de par nous-mêmes. Mais il y a un Saint-Esprit qui est chargé de faire ce travail, de nous expliquer, de nous enseigner, de nous révéler. Là où nous sommes bloqués, il est là pour nous apporter la solution adéquate par rapport à la situation qui nous bloque. Mais il faut se nourrir de Christ. Il faut se nourrir de Christ. Si on ne se nourrit pas de Christ, nous n'allons pas vivre. Se nourrir de Christ, quand nous nous nourrissons de Christ, nous sommes au moins sûrs d'une chose, que nous allons vivre. Alléluia. Quand nous croyons à sa parole. Alors, se nourrir de Christ, nous avions dit, c'est chaque jour lui parler par la prière et l'écouter par la lecture de la parole. C'est entrer dans ses pensées et ainsi apprendre à les connaître plus intimement. Et nous ne sommes pas limités à donner cette explication. On a encore ouvert le sens en lisant. C'est l'introduire dans ta vie, dans ma vie, faire de lui un confident. Lui confier tes pensées, tes désirs et mes désirs. Alors, cette façon de faire n'est pas basée sur mes sentiments, tes opinions, mes opinions, ou par des sensations passagères. Non, monsieur. Cette façon de faire prend plutôt sa source dans ta foi. Car sans la foi, on ne va pas comprendre les choses. Dans Hébreux 11, verset 3, mais c'est la version Darby qui explique ça mieux. Dans la version Darby, on parle de comprendre. Par contre, dans Louis II, on parle de « nous connaissons ». Mais dans Darby, on parle de « comprendre ». Nous savons que la foi et la prière ne vont pas l'un sans l'autre, n'est-ce pas? Alors, attention, c'est là où les bas blessent. On a posé la question. Quand tu pries, où puises-tu l'inspiration de tes prières? Quand tu pries, où puises-tu l'inspiration de tes prières? Très important. La source de tes prières, de mes prières, doit être la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, tu es imprégné de la parole de Dieu. Tu veux tomber, il y a la parole de Dieu qui va sortir. Tu es en train de conduire ta voiture, il y a la parole de Dieu qui va sortir. Parce que partout dans ton corps, il y a la parole de Dieu. Tu te nourris de la parole de Dieu. Toutes tes cellules s'appellent parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Alors,
Si, en priant, tu veux que tu puisses avoir du succès dans tes prières, il y a deux versets qu'il faut bien observer. Il y a Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Toujours le regard fixé sur lui. Pas sur moi, pas sur l'autre. Tu t'en fous de ce que l'autre pense. Mais toi, tes regards sont fixés sur Jésus. Rien que sur Jésus. Je peux voir, je peux entendre, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais toi, à tout moment, il n'y a que Dieu a dit, Dieu a dit. Mais oui, parce que toutes mes cellules sont formées de la parole de Dieu. Et deuxième verset qu'il faut bien mettre dans la tête, c'est 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, où il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où nous avons amené sur scène cette pratique de vidange et de remplissage. Donne-moi plus de toi, prends plus de moi. À tout moment, donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi, prends plus de moi. À tout moment, il faut que cette opération de remplissage puisse se réaliser dans ta vie. Vidange et remplissage. Puisque tu étais une chose ancienne, on vide. Alléluia. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On te remplit par la parole de Dieu. Donc, il faut toujours dire au Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. C'est le plus de toi qui m'intéresse, plus de toi, plus de Jésus dans ma vie. Alléluia. Prends plus de moi. Tout ce que j'ai de ma naissance adamique, joie. Prends, c'est pour toi. Et donne-moi plus de toi. Alors, pour se nourrir de Christ, la notion du monologue intérieur a été évoquée. Le monologue intérieur. Tu es toujours occupé. Tu n'es pas distrait. Se parler à soi-même, à tout moment. Même quand je te regarde, mais moi, intérieurement, dans mon cœur, je monologue. Alléluia. Donc, je ne peux pas être distrait. Je ne peux pas être distrait. Me nourrir de Christ. Ce soir, nous allons nous lever. Nous allons lire dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, dans deux chapitres, 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Après, nous irons dans 1 Corinthiens 3, le premier verset. Alors, 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15, nous allons lire. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. 1 Corinthiens 3, le premier verset. Nous lisons. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Pourquoi? Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alléluia! Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez reprendre vos places. Voilà. En lisant attentivement ces deux endroits à la maison, j'ai trouvé des interpellations. Alors c'est pour cela que je mets au même diapason le sujet sur que celui qui peut comprendre, comprenne, ainsi que se nourrit. Je mets ces sujets que nous allons voir ce soir au même diapason que les deux autres sujets. Alléluia. Moi, je trouve qu'en filigrane, il y a toujours cette question de compréhension. Quand on mange, il y a toujours cette question de compréhension. Alors, dans ces deux endroits, je vais tirer le sujet que j'intitule. Normalement, je devais l'intituler « La place de la spiritualité dans la vie chrétienne ». Mais j'ai trouvé ça assez long comme sujet. Fabrice, tu mettras « Place à la spiritualité ». Mais dans nos têtes, il y a un bout de phrase qui reste. Place à la spiritualité dans la vie chrétienne, mais tu coupes. Place à la spiritualité. N'est-ce pas? Place à la spiritualité. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore charnels dans votre compréhension de ce qu'on vous donne comme nourriture. Place à la spiritualité. Je ne veux pas vite en besogne pour commencer à parler du sujet, mais je voudrais d'abord, non pas pour embêter son monde, je voudrais d'abord un peu que nous saisissions la signification de ce mot spiritualité. La spiritualité est une quête personnelle de sens, quête personnelle de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, souvent lié à des valeurs profondes, des croyances religieuses ou des expériences transcendantale, c'est-à-dire qui va au-delà des limites ordinaires de notre perception. Amen. Il est quand même à noter que la spiritualité peut être explorée en dehors de la religion. Alléluia. Il faut que nous mettions ça à l'esprit. La spiritualité peut être explorée en dehors de la religion. Alors ici, nous sommes dans le domaine de la religion, nous sommes dans le domaine chrétien. Il est aussi important que nous puissions faire cette différence entre spiritualité et religion.
Amen.
La spiritualité et la religion, m'a dit Robert, sont deux termes distincts, bien que liés. Mais ce sont deux termes distincts. La religion est généralement associée à des croyances, rites, des doctrines qui sont organisées au sein d'une communauté spécifique, souvent institutionnalisée. En d'autres termes, la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant les rapports de l'homme avec le sacré. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant commencer à détailler notre sujet de ce soir, place à la spiritualité. Quand je relis les deux textes dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et comme vous êtes encore des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Paul classe les chrétiens en deux catégories, n'est-ce pas? Dans cette lecture, Paul place les chrétiens en deux catégories. Nous avons d'un côté les chrétiens qui sont charnels, et de l'autre, des chrétiens qui sont spirituels. Amen.
Amen.
Alors, je voudrais qu'à la fin de la prédication, que chacun me dise, il est dans quelle catégorie. Ça sera un cas de conscience. Alléluia.
Amen.
Toi et ta conscience, par rapport à ce qui sera dit, tu dois t'es classé, tu es de ce côté ou de ce côté-là. Même la personne qui parle. Alléluia. Bien. Paul constate que quand il arrive chez les Corinthiens, il y a cette situation. Les chrétiens qui sont charnels et les chrétiens qui sont spirituels, voilà pourquoi nous voudrions parler de la place à la spiritualité, c'est-à-dire des expériences spirituelles. C'est un besoin urgent pour que nous ne puissions pas adorer en vain. Ah! Parce que quand vous remarquez très bien ce qui se passe, triste pour les Corinthiens. Là, nous devons bien visiter la spiritualité pour que nous ne puissions pas adorer en vain. Corinthiens, livre de correction. Écoutons ce que le messager nous dit à la page 3. Je vais lire lentement pour que votre attention soit vraiment captée par l'Esprit de Dieu et que vous puissiez saisir. Quand Paul arrive à Corinthe, il constate qu'il y a deux catégories de chrétiens. Chrétiens charnels et chrétiens spirituels. Alors, dans le message Corinthiens, livre de correction, le messager dit à la page 3, paragraphe 14 jusqu'à 16, maintenant, dans les livres de Corinthe, de Corinthiens, ce livre est un livre de correction. Nous devrions considérer ce livre de Corinthiens. Dans tout le Nouveau Testament, C'est la seule église avec laquelle les conducteurs ont eu, à ce qu'il paraît, beaucoup de problèmes. De toutes les façons, les Corinthiens avaient toujours des problèmes. Paul, lorsqu'il allait chez eux, l'un avait une langue, l'autre avait un cantique, et un autre avait une émotion ou une sensation. Et il avait toujours du mal à maintenir ses Corinthiens dans l'ordre, malgré les dons qu'ils avaient. Alléluia. Malgré les dons qu'ils avaient. Si nous remarquons bien, ils ne pouvaient pas enseigner des choses profondes aux Corinthiens. Ils étaient simplement comme des bébés. Ils ne pouvaient pas aller chez eux avec des messages bien profonds comme ils le faisaient chez les Éphésiens et chez les Romains. Et leur enseigner des choses profondes parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les recevoir. Ils s'appuyaient trop sur de petites sensations, de petites choses de ce genre, juste et bien. Gloire à Dieu, je l'ai reçu. J'ai reçu une révélation. J'ai eu un cantique. J'ai une prophétie. Et Paul dit, toutes ces choses cesseront. Qu'est-ce qui va rester? L'amour. Toutes ces choses cesseront. Ah, prophétie. Ah. 1 Corinthiens 13, vous verrez que il ne restera que l'amour. Alléluia. Faire très attention. Et Paul dit, toutes ces choses cesseront, vous voyez? Chacune d'elles, on ne doit pas trop se fier à ces choses. Parce que souvent, quand je suis dans l'entretien avec des gens à la maison, quand on parle, quand on se rencontre, mais frère, nous avons le message. Mais nous voyons quand même 1 Corinthiens 13 est là. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas tout ça? Frère ou sœur, avec qui nous avons pu aborder ce genre de questions, écoute-moi bien. Paul dit, toutes ces choses cesseront, vous voyez, chacune d'elles. On ne doit pas trop se fier à ces choses. Cependant, c'est à quoi il s'efforçait d'amener l'Église, c'était à cet ancre-là où nous sommes ancrés en Christ, là où nous ne nous reposons pas sur des sensations. Nous ne nous confions pas dans des révélations. Nous ne nous confions pas en ces choses-là. Nous ne nous confions qu'en Christ. Alléluia. C'est par la foi que nous y arriverons. Amen. C'est par la foi que nous y arriverons. Nous remarquons que Paul pouvait enseigner à ces Éphésiens la commander avant la fondation du monde, ils étaient prédestinés à l'adoption des fils de Dieu. Les Corinthiens ne connaissaient rien à ce sujet. Il leur fallait avoir une petite émotion ou autre chose, une petite sensation, cela ou autre chose, et s'ils s'appuyaient là-dessus, ils ne pouvaient pas leur enseigner les choses profonde. Alléluia. Alors là, mon frère, ma soeur, je sais que chaque fois que tu me poses cette question, ça te tient à cœur. Écoute bien le prophète, ce qu'il dit. Nous sommes à Corinthe, là où il y a diversité de dons. Et toi, tu as toujours envie de comprendre, mais pourquoi est-ce que chez nous, il n'y a pas ces choses? Ainsi, je pense que lorsque vous avez un peuple auquel vous pouvez enseigner des choses profondes, le Saint-Esprit peut alors faire retenir ces grandes vérités et les ancrer dans le cœur des gens, afin qu'ils sachent où ils se tiennent, qu'il y ait sensation ou pas, qu'il y ait prophétie ou pas, quoi que cela puisse être, peu importe ce que c'est. Ainsi, maintenant rappelez-vous nous ne sommes pas. Je n'essaye pas de dire que Dieu n'agit pas par la prophétie et des choses semblables. Mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous ne sommes pas emparés de quelque chose de plus profond que cela, vous voyez? Car il a dit, là où il y a des prophéties, elles prendront fin. Là où il y a des langues, elles cesseront. Et là où il y a trois points. Et toutes ces choses, sensation que ces Corinthiens avaient, aucune n'était l'évidence qu'ils étaient sauvés. Aucune n'était l'évidence qu'ils étaient sauvés. Aucune d'elles n'était l'évidence qu'ils étaient sauvés. Que vous criez, que vous prophétisiez, que vous guérissiez les malades, que vous parliez en langue, que vous interprétiez les langues, que vous ayez la sagesse ou que vous ayez la connaissance. Aucune, toutes ces choses, c'est 1 Corinthiens 13. Ça va? Aucune de ces choses ne signifie que vous êtes sauvés. Aucune d'elles. Vous pouvez bien avoir chacune d'elles, dit Paul dans 1 Corinthiens 13, et être perdu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et être perdu. Je ne suis rien, vous voyez? Mais lorsque vous avez, quoi? L'amour. Ça, c'est une encre. Comme je t'ai toujours dit, mon frère, on peut ne pas avoir toutes ces choses, mais si nous sommes dans une assemblée où il y a l'amour, c'est important. Amen. Si nous sommes dans une assemblée où il y a l'amour, il y a vraiment de vraies marques d'amour, pas de souris de magasin, d'hôtesse de l'air, ça va, bon voyage, et bon séjour chez nous en Belgique. Non, pas ça. Le vrai amour, c'est-à-dire je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Quand nous pouvons sentir cela parmi nous, ça, c'est une carte qui gagne.
Amen.
C'est une carte qui gagne.
Alléluia.
Vous pouvez la présenter partout. Les portes s'ouvriront.
Oui.
Prions Dieu pour qu'il puisse nous donner cette portion de cette chose-là.
Amen.
Alléluia.
Amen.
L'amour. Le reste passera. C'est l'amour parfait seulement. L'amour parfait qui entrera là. N'est-ce pas?
Amen.
L'amour parfait entrera là-dedans. Maintenant, avant de commencer de détailler ces deux catégories, je voudrais que nous saisissions d'abord quelque chose dont nous apprenons à travers 2 Corinthiens 5, verset 17. Noah, tu peux lire ça avant d'arriver à détailler ceci.
Si quelqu'un est en Christ,
oui,
il est une nouvelle créature.
Oui.
Les choses anciennes sont passées.
Oui.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Ok. Question. Est-ce que lorsque nous naissions de nouveau, nous avons un nouveau corps?
Non.
Question, je repose la question. Est-ce que lorsque nous naissons de nouveau, nous avons un nouveau corps? La réponse, je pense que non. Très important pour que nous puissions aborder les deux catégories. Saisissons d'abord cette réalité. Non. La réponse est non. Nous pouvons saisir c'est l'être intérieur qui devient un homme nouveau. Mais pas notre corps. Ça va? C'est l'être intérieur qui devient un homme nouveau. L'homme né de nouveau n'a plus la nature du diable en lui. Par contre, mon frère, ma sœur, la nature avec laquelle il doit composer, c'est la nature charnelle. C'est, il va composer avec sa nature charnelle. Il s'agit de son corps qui n'a pas encore été racheté. Nous avons le témoignage de Romains, je pense, 8, versets 22 et 23, qui nous donne une explication claire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il dit?
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Oui.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit.
Mm-hmm.
Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Amen. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Voilà. Nous attendons la rédemption de notre corps. La nature aussi soupire. Nous aussi, nous soupirons dans notre nature charnelle. Hein? Tu as toujours le même corps qu'auparavant, n'est-ce pas? Il y a toujours le même corps qu'auparavant. Il faut que nous comprenions ces choses. C'est la base même de la spiritualité. Tu as toujours le même corps qu'auparavant. Tu as toujours et encore les mêmes inclinations. Alléluia. Tu les as toujours. Ça, c'est une réalité à laquelle nous devons être très, très sensibles. Et nous devons bien comprendre cela. Mais tu tiens cette chose. Tu tiens cette chose. La nouvelle naissance est le minimum de la vie spirituelle. Alléluia. C'est le fondement sur lequel s'édifiera toute la vie ultérieure. Alléluia. Jean dit, Jean 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit?
Ce qui est né de la chair est chair.
Mm-hmm.
Et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Voilà. Comme je disais, la nouvelle naissance est le minimum de la vie spirituelle. Dieu entre dans ton esprit, Dieu viendra parler dans ton esprit. Donc tout ce qui va suivre dans ton évolution en tant qu'enfant de Dieu, c'est sur base de cette nouvelle naissance. Alléluia. Maintenant, nous pouvons essayer un peu de détailler ces deux catégories. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par chrétien charnel et par chrétien spirituel? Le chrétien charnel, bien que né de Dieu, alléluia, c'est pour cela qu'on parle de chrétien charnel, bien que né de Dieu, c'est-à-dire il est régénéré, il marche encore selon les convoitises du corps. Alléluia. Il marche encore selon les convoitises du corps. Ce croyant frais marche encore dans le domaine du sentiment, de ses pensées, n'ayant pas encore été éprouvé et affiné par le feu. Romains 7, verset 17 à 18 témoigne.
Et maintenant,
oui.
Ce n'est plus moi qui le fais,
mm-hmm.
mais c'est le péché qui habite en moi.
Voilà.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
Mm-hmm. N'habite pas en lui où? Dans sa chair. Hein?
C'est-à-dire dans ma chair.
Voilà.
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire.
OK.
Car je ne fais pas le bien que je veux.
Oui.
Et je fais le mal que je ne veux pas.
Jusque-là. Quand il dit la chair, c'est-à-dire, il s'agit de ma propre vie. Hein? Ma propre vie en moi, comme quand j'étais encore dans le monde. Je conçois mes choses, je dis, bon, ça y est, je vais agir comme ça. Il ne sait pas encore ce que c'est la chair. Comment peut-on en être libéré des œuvres de la chair si on ne les reconnaît pas comme telles? Problème. C'est pourquoi, dans l'appréciation de leur état réel, les nouveaux-nés en Christ sont en général charnelles. Paul, quand il arrive à Corinthe, constate que les Corinthiens, au lieu de grandir, ils ont gaspillé leur vie en restant de petits enfants, de nouveaux-nés. De ces faits, ils sont encore charnels. Ce sont des vieux bébés dans l'assemblée. Ce n'est pas nouveau. Ça existe aussi ce soir là où nous sommes. Des vieux bébés, 40 ans depuis qu'il a été baptisé. 50 ans même. Mais il reste un vieux bébé contristant le Saint-Esprit et ils vivent à perte. Ils vivent à perte. Or, mon frère, ma soeur, tout croyant régénéré devrait prétendre au développement spirituel. Oui. Il y a une base. La nouvelle naissance. Mais ce n'est pas fini, chef. Ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Quelles sont les causes de ces défauts de croissance? Quelles sont les causes de ces défauts de croissance? J'en ai épinglé deux. Première cause, elle peut être due à une négligence de la part de ceux qui veillent sur les âmes de jeunes convertis. Ils ne leur parlent que de la grâce de Dieu et de leur position en Christ, mais omettent de les encourager sur le chemin de l'expérience spirituelle. Souvenez-vous, mercredi 12 avril 2023, quand on a parlé de paix mes agneaux, nous avons épinglé cette situation, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas dire aux nouveaux convertis. Vous vous souvenez? Comment s'y prendre devant les nouveaux convertis? Alors je pense que nous avons parfois une responsabilité dans leur défaut de croissance. Il faut donner des consignes claires par rapport à la parole, ce qu'il est censé faire et ce qu'il n'est pas censé faire. Si tu n'es pas au clair, tu la boucles, demande au Seigneur de te donner la bonne direction pour que ces nouveaux convertis puissent marcher de progrès en progrès. Ça, c'est nous, c'est-à-dire les anciens qui sont là, 20 ans à l'église, je suis né ici, je suis baptisé, mais quand le nouveau converti arrive, regardez seulement comment nous nous comportons vis-à-vis d'eux. Nous sommes entre nous, les anciens. Rares sont ceux qui vont chez le nouveau et disent « Bonjour, ça va, comment vas-tu hein? Moi, je m'appelle Albert Zumbo, j'habite tel... » Non, 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 non. Dès qu'on termine, je cherche François. Mais je vois François tous les jours. Je le vois tous les jours. Va vers ces nouveaux convertis-là, cette personne qui est venue, à qui tu as témoigné la vérité. Maintenant, elle a pris la décision de venir chez vous. Beaucoup viennent et ils partent. Parfois, ils disent, ah, mais oui, mais, oui, mais, oui, c'est hard, hein. C'est hard. Et puis, mais, si, toi, Noah, tu as eu le temps d'aller vers ce monsieur-là, parler, prendre rendez-vous, il aurait peut-être, je dis bien, il aurait peut-être compris certaines choses. Deuxième cause de ces défauts de croissance, c'est que, deuxième cause possible, je dis, hein, c'est que les croyants eux-mêmes ne sont pas très zélés pour des choses spirituelles. Alléluia. Tu lui as parlé, bon, ok, c'est bien, il est venu. Mais, mon frère, ma soeur, quand tu témoignes la vérité, évite de dire à la personne avec qui tu parles, viens chez nous, c'est bien. Il ne faut jamais dire ça. Viens chez nous, c'est bien. OK? Mais quand il arrive chez toi, le frère François prêche, il prêche de l'adultère, il prêche de la désobéissance. Alors pourquoi je dois venir chez vous? Alors que chez nous aussi, on parle d'adultère, et on parle de la désobéissance. Et chez vous, qu'est-ce que je trouve de nouveau? Chez vous aussi, je retrouve la même chose. Je reste chez moi. Donc, le problème, ce n'est pas de quitter l'assemblée. Ce n'est pas de changer l'assemblée. Le problème, c'est la relation que tu as avec Christ. C'est là où se trouve le problème. Mais le problème n'est pas quand tu t'embrouilles avec moi. Ah bon, ça va, dit lui, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre, je m'en vais. Oh, la solution n'est pas celle-là. Le problème, même là où tu iras, tu trouveras des problèmes. Parce qu'il y a des gens là. Alléluia. D'ailleurs, dès que tu arriveras, cette assemblée sera affectée de ta maladie. Cette assemblée sera affectée de ta maladie tôt ou tard. On saura. Le problème réside au niveau de la compréhension de la nourriture dont on parle. Ta relation avec Dieu, pas ta relation avec le pasteur, avec tout ce que tu veux. Non, monsieur, tu t'en fous de tout ça. Ta relation avec Dieu, c'est ça qui est important. Donc ici, les croyants eux-mêmes ne sont pas très zélés pour des choses spirituelles. Ou bien, ils croient qu'il suffit d'être simplement sauvé, ou bien, ils manquent d'appétit spirituel, ou bien encore, ils ne sont pas prêts à payer le prix du progrès. Ils ne sont pas prêts. Et le problème, je dois le dire, je suis désolé, on a réduit le message, pas des pantalons, pas des maquillages, et pas de ceci, pas de cela. C'est bien tout ça. C'est bien. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Et tout ça aussi, on doit se remettre en cause quelque part. Ce n'est pas l'essentiel de ta marche spirituelle. Parce qu'il y a des personnes bien éduquées dans leur famille qui ne mettent pas de pantalons, pas de maquillage, pas de longues jupes, non, pas de courtes jupes, tout. Des personnes bien éduquées, voilà. Hein? Il y a des personnes qui sont sages sans pour autant qu'ils aient les dons de la sagesse. Mais ils sont sages. Il y a des gens qui sont intelligents sans pour autant qu'ils aient les dons de la connaissance. Hein? Nous avons réduit le message... Je suis désolé, j'aurai le temps d'en parler en loin et en large, mais je suis désolé. Je suis désolé. On a érigé le message en dogme. J'ai ma propre expérience quand je suis arrivé en Belgique, en 86. C'est que j'ai eu comme impression. Mais parce que bon, j'étais déjà un élu, c'est pour cela que je suis resté. Ah oui! En 90, quand je suis arrivé, c'est dogmatique! C'est dogmatique! Allez. Voyons. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix du progrès. Alors, la conséquence déplorable, c'est que l'assemblée est remplie de grands bébés. Rien à faire. Alors, caractéristique de chrétien charnel. Où est-ce qu'on peut aller chercher les caractéristiques de chrétien charnel? La première et la plus importante, c'est précisément qu'il y reste longtemps des petits-enfants. La durée de cette étape ne devrait pas dépasser quelques années. Quand quelqu'un est né de nouveau parce qu'il a cru que le Seigneur a expié ses péchés, il devrait croire en même temps qu'il a été crucifié avec Christ. Alléluia. son ignorance sur ce point le maintiendra dans la chair pendant bien des années. La deuxième caractéristique, c'est leur incapacité d'absorber un enseignement spirituel. Noé, 1 Corinthiens 3, le 2 premier verset.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Oui.
Je vous ai donné du lait,
voilà.
Non de la nourriture solide.
Voilà,
car
j'arrête
vous...
là. Leur incapacité d'absorber un enseignement spirituel. Non, ça vole. Ça vole très haut. Et la troisième caractéristique, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 3, qu'est-ce qu'il dit?
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes.
Écoute-moi, jalousie, dispute, ce sont le fruit de la chair, n'est-ce pas? Alors, quand ces choses ont élu domicile dans nos cœurs d'abord. Alléluia. Après, ça produit quoi? Des divisions, des disputes, des procès. D'ailleurs, plus loin, il dit, ce qui est mauvais chez vous, vous avez l'habitude de procès. Un peu plus bas. Vous êtes habitué à des procès. Tout le temps. Procès sur procès, procès sur procès. Alléluia. Ça, ce sont là les trois caractéristiques que j'ai pu relever dans les dires de Paul. Alors, le chrétien spirituel, c'est justement l'inverse de ce que nous venons de dire sur les chrétiens charnels. Mais j'ai fait un petit résumé du chrétien spirituel. Il marche journellement selon l'esprit, ce qui le maintient en permanence dans un état spirituel. Alléluia. Les délivre de la puissance de la chair, l'aide à obéir en tout temps à la volonté de Dieu et le protège contre les assauts de Satan. La marche par l'esprit exige, la marche par l'esprit exige la peine de mort de toutes tes pensées,
Amen.
De toutes tes idées,
Amen.
Et de tous tes désirs.
Amen.
Comme ça, vous laissez à l'esprit d'agir librement en toi et que tu dois être sensible, c'est-à-dire obéissance aux injonctions que l'esprit te donne.
Alléluia.
Alléluia.
Amen. Amen.
Tu es sensible aux injonctions de l'esprit. Alléluia. Maintenant, pour terminer, place à la spiritualité. Est-ce que tu peux aller lire, Noé, dans 1 Corinthiens 10, les 6 premiers versets? Je te demande, mon frère, ma sœur, d'être très attentif.
Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ.
Quand tu arrives au verset 5, tu t'arrêtes pour que je te donne le passage d'aller au verset 6. Lis jusqu'au verset 5.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu.
Voilà.
Puisqu'ils périrent dans le désert.
Voilà. Malgré. Vous avez vu ce qu'ils ont vu, ces gens. Hein? Mais malgré cela, qu'est-ce que la Bible dit?
La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu.
Ah! La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Mon frère, ma sœur, ceci te concerne, ceci me concerne aussi. Alléluia. Ce soir encore. Ils ont expérimenté des choses. Malheureusement, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Corinthiens, livre de correction, page 13, paragraphe 63, non 67. Maintenant, que va-t-il faire ici pour mettre fin à cela? Il avertit ses Corinthiens, prenez garde à ce que vous faites. Voyez-vous? Après avoir expérimenté toutes ces choses-là, hein? Mais il faut prendre garde à ce que vous faites par rapport à ce que vous avez expérimenté. Quand je viens parmi vous, l'un a un cantique, l'autre a une langue, l'un a ceci, l'autre a cela, l'un a une prophétie, l'autre a une révélation, l'un fait ceci et l'autre dit cela. Prenez garde, ne basez pas votre foi sur cela. Ces choses-là sont très bien. Elles ont leur place. Et c'est dans l'Église. Mais ne basez jamais votre salut là-dessus. Amen. Si votre vie, tu veux bien, puisque si on parle, il n'était pas agréable à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le messager dit, si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors c'est le moment de vous mettre en ordre avec Dieu. Se mettre en ordre avec Dieu, c'est-à-dire être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si lui, selon sa lecture, il ne te trouve pas agréable, mon cher, ma chère, ce qui est arrivé aux Corinthiens, si tu peux descendre, après le verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Ces choses. 1 Corinthiens 10.
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple.
OK. OK. Donc, ce soir, si il y a 2000 ans ou combien d'années, je ne sais pas, ces choses sont arrivées, la Bible dit, c'est pour que ces choses puissent nous servir d'exemple. Nous devons nous préoccuper d'avoir une relation personnelle avec notre Dieu, c'est-à-dire nous devons lui être agréable. Être agréable. Et je continue à la page 19. Mais, paragraphe 103, il dit, « Mais en retour, quelle est votre reconnaissance envers Dieu? Êtes-vous disposé à lui soumettre toute chose, toute pensée, tout acte, toute chose? » Voilà. C'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Vous, qu'allez-vous faire pour lui?
Amen. Amen, amen.
Vous, qu'allez-vous faire pour lui?
Amen.
Donc, il y a un échantillon de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Et moi, je dois, à ce moment-là, marcher selon l'Esprit,
amen,
lui donner tout. Remarquez. Lisons simplement quelques versets de plus. Lorsque je vais terminer, afin que le pasteur puisse prendre la parole, maintenant remarquez, et ce même rocher était Christ. Maintenant, le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Vous voyez? Il leur permit d'être baptisés. Il leur permit de manger la parole et de la croire. Tu veux bien? Il leur permit de manger la parole, se nourrir de la parole, manger de la parole et de le croire. Il leur permit de jouir des bénédictions spirituelles. Il leur permit de boire au rocher spirituel. Dieu fit tout cela par sa grâce, mais pourtant, ils ne prenaient point plaisir en eux. Remarquez, puisqu'ils périr dans le désert. Après toutes ces expériences, après tous les grands services de guérison auxquels nous avons assisté, après tous les grands miracles que nous avons vus être accomplis, après toutes les grandes sensations que nous avons eues en criant et en louant Dieu, en buvant de ces rochers, tous les bons serments dont nous nous sommes réjouis, et cependant étaient rejetés, c'est fini. Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même pas connu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, nous devons faire très très attention. Il y a un psychiatre autrichien au nom de Viktor Frankl, dans son livre intitulé « Découvrir un sens à sa vie », a démontré que beaucoup de pathologies s'expliquent par la perte du sens de la vie, fondement du domaine spirituel. Pourquoi est-ce que tu es là quand tu n'arrives pas à donner un sens à ta vie? Attention, attention, tu risques gros. Maintenant, comme j'avais dit à la fin de la prédication, que chacun puisse dire, voilà, moi, je suis dans la catégorie de chrétien charnel ou de chrétien spirituel. Et la fois prochaine, si nous, Dieu nous accorde en gros la grâce, nous allons voir les secrets d'une spiritualité. Puisque quand vous faites l'expérience de la nouvelle naissance et que cette nouvelle naissance va constituer le fondement de tout ce qui va suivre, pour vivre votre spiritualité, Dieu vous donne des dons. Alléluia. Dieu va vous donner des dons. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, toujours dans le cadre de la compréhension de ce que nous écoutons, dans le cadre de ce que nous mangeons, attention, il y a d'autres qui ont expérimenté ces choses, mais ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et la Bible dit que leur corps tombèrent dans les déserts. On doit beaucoup réfléchir. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu, le Seigneur. C'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu, sa parole, 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 c'est le feu, parole, 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 sa parole, c'est le feu, bénissons. Notre Dieu, bénissons. Oh, notre Dieu, oh, il reviendra, viendra, viendra. Chercher, il reviendra bientôt. C'est une réalité. Nous allons prier pour la fin du culte. Puis-je vous demander de prier pour la sœur Astrid, qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle a de très fortes douleurs aux pieds.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous, pour tout ce que tu viens de nous dire encore, Papa. Nous savons que, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses, Seigneur. Que tu nous aides d'être agréable. C'est ça qui est le plus important. Nous pouvons faire des expériences, oh mon Dieu, mon roi Père, de toutes sortes que nous voulons. Mais nous devons être agréables. Nous devons être agréables si nous ne voulons pas avoir de surprises. Seigneur Jésus, tu l'as bien dit. Tu l'as montré, ce qui s'est passé chez les Corinthiens, Seigneur, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté. Oh, ils n'ont pas été agréables. Seigneur, que tu nous aides. Pas de par nous-mêmes, Père. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous venons implorer ta bonté. Nous venons implorer ta grâce. Pour que, oh mon Dieu, Père éternel, ce jour-là, que nous ne soyons pas surpris. Nous voudrions, Père éternel, vivre notre spiritualité par ton aide, Père. Il n'y a que toi, Papa, qui peut, oh mon Dieu, Père, nous soutenir dans cette pratique. Alors nous comptons sur toi, Père. Merci, oh mon Dieu, Père éternel, pour nous avoir encore parlé de ces choses dont nous avons besoin pour continuer la marche, Père. Regarde, Père, ta servante Astrid, oh mon Dieu, Père, n'a pas pu venir, oh mon Dieu, Père, ce soir, à cause, oh mon Dieu, Père, d'une forte douleur au pied. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu guéris aussi par la prière, Père. Touche ta fille là où elle est, Père éternel. Que tu puisses, oh mon Dieu, Père, la délivrer, oh mon Dieu, Père. Qu'elle puisse expérimenter, oh mon Dieu, Père éternel, cette guérison acquise à la croix de Golgotha. Que tu puisses activer encore, oh mon Dieu, Père, cette guérison dans sa vie. Je te fais confiance, Père. Merci, oh mon Dieu, Père éternel, pour la fin de ce culte. Que tu puisses, oh mon Dieu, Père, nous aider à rentrer dans nos demeures respectives. Merci, oh mon Dieu, Père, pour ceux qui n'ont pas été les nôtres, que tu les bénisses, que tu les visites aussi, oh mon Dieu. Si tu nous permets, oh mon Dieu, d'être encore de ces côtés du temps, nous pouvons nous rencontrer le dimanche, nous viendrons te louer, t'adorer et te remercier. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Ce que nous venons de demander ce soir et ce que nous ne pouvons pas demander, que le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom insuffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Notre service de ce soir est terminé. Que Dieu vous bénisse.